Bonjour à tous et à tous. Merci d'avoir choisi Couleur FM 97.1. Vous êtes à l'écoute de notre 10e émission Fenêtre sur cour. Émission réalisée en partenariat avec la Cité de la CAF et avec le soutien de la Fondation de France. Et avec nous aujourd'hui, nos dynamiques collaboratrices
Micheline,
Bernadette,
Evelyne,
Maddy,
Elisabeth
et moi-même, Christine.
Aujourd'hui, au menu, c'est donc la gourmandise. Et quand on se promène dans les rues et qu'on commence à regarder à l'approche des fêtes les vitrines des traiteurs, eh bien, on peut d'abord voir les terrines, les pâtés dans leur croûte dorée qui s'alignent. On peut voir des cuisseaux de chevreuil ruisselant de jus. On voit aussi des dindes, des oies farcies de truffes, de pruneaux qui exhalent des fumées, des senteurs d'une finesse incroyable, senteurs un peu plus lourdes hein, qui peuvent se mêler à celles des civets de lièvre ou de marcassin bien mijotés dans leur sauce brune avec de la sauge, du thym, du romarin. Puis alors pour décorer, parce que il faut quand même de jolies vitrines, des grappes de muscat ambré, des raisins bien gonflés de jus, des cerneaux de noix cuivrés. Et puis parmi tout cela, bah, quelques bonnes bouteilles de bon vin dont les étiquettes vous mettent le cœur en fête. Hein. Alors, Evelyne, vous allez peut-être bien nous parler de quelqu'un qui avait une belle vitrine comme celle-ci.
Alors aujourd'hui, coup de projecteur sur une personnalité bien reconnue professionnellement, Monsieur Robert Morel, traiteur retraité et le jeune fromager, tout juste 20 ans, tout récemment installé à Champaret.
Alors, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'avoir avec nous une figure gastronomique de Bourgoin-Jallieu, bien connue au-delà du terroir local, Monsieur Robert Morel, boucher, charcutier, traiteur, et si vous le permettez, je rajouterai quel bel homme.
Voilà. Bien, Monsieur Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes quand même une personnalité de la ville, hein?
Je trouve que c'est beaucoup une personnalité.
Écoutez, Monsieur Morel, si on parle de Monsieur Morel à Bourgoin, oui, tout le monde vous connaît.
D'accord, ben c'est bien.
Voilà, ah, vous aviez quand même un commerce. Oui. La question qui me vient d'abord, eh bien, c'est comment et pourquoi devient-on un boucher ?
Votre question, je comprends tout à fait que vous me posiez ce genre de question, parce que quand on parle d'un boucher, on voit tout de suite le couteau, le sang, voilà.
C'est tout à fait ça.
Voilà, alors que c'est pas ça du tout, quoi. Aujourd'hui, un boucher, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, le boucher ne tue pas, le boucher travaille la viande, il transforme le produit, voilà. Alors, bon, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que, si vous voulez, mes origines, depuis 5 générations, à Nivola, on était dans la boucherie. Donc, mon arrière-grand-père était déjà boucher sur Nivola. Je suis tombé là-dedans. Alors, on dit dans la vie, on doit choisir. On choisit pas tout, tout en choisissant. C'est-à-dire que moi, j'aurais très bien pu faire autre chose. Personne ne m'imposait de faire la boucherie. Mais quand vous êtes né dans un métier qui a été très bien fait par vos ancêtres, d'ailleurs, pour rester 5 générations dans la même région, il faut avoir travaillé sérieusement. Hein, pour avoir un nom, comme vous dites, je suis resté 40 ans sur Bourgoin, il faut travailler sérieusement. Autrement, vous avez vite compris qu'il faut partir ailleurs. Aussi bien de par les fournisseurs que par vos clients. Donc, ben voilà, moi avec mon grand-père et mon père, j'avais le plaisir d'aller, on avait l'élevage, les charolais, j'ai sorti les brouettes de fumier, j'ai soigné les bêtes, j'ai chargé les bêtes, je suis allé au marché de la mouche à l'époque à Lyon, je suis né là-dedans et il faisait ça tellement bien que c'était des passionnés, à tel point que il y a un moment où on se trouvait au repas de Noël avec mon grand-père, mon père et mon frère et moi, on passait à table et on avait tendance à parler vos vaches cochons à table, ce qui fait que ma femme, qui n'avait pas l'habitude de ce genre de discours, commençait à me dire, mais ça commence à bien faire vos histoires. Donc je suis tombé dedans à la naissance. Et puis, bon, un jour, mon père, bon, j'ai pas fait de grandes études et j'étais pas un passionné non plus par les études et tout. Et comme tout gamin, je préférais m'amuser que d'aller à l'école. Et puis, jusqu'au jour où mon père me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Voilà, à Champaret, là-bas, il y a un centre commercial qui se monte. Est-ce que ça peut t'intéresser? Je lui dis, écoute, moi, je te dis tout de suite oui. Voilà, tac. Donc, il a planté des jalons là-bas à Champaret pour acheter cette boutique. Et c'est moi qui ai ouvert la boutique là-bas, en rentrant de l'armée. Voilà, j'ai commencé assez jeune. Et lorsqu'on a des ancêtres qui ont très bien travaillé et qu'on prend la suite, il est évident qu'on cherche à faire mieux. Et donc, faire mieux en boucherie pure et dure, c'était pas facile parce qu'ils étaient très bons en élevage, en boucherie et tout. Et là-dessus, en même temps, on me posait des questions. Comment je fais cuire ce morceau? Voilà. Et là, au début, je prenais, entre guillemets, des bâches parce que je savais pas comment faire cuire un rôti de veau ou parce que, à la maison, je cuisinais pas. Maman faisait tout et puis voilà, quoi. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait que je prenne des cours de cuisine. Donc, j'ai pris des cours de cuisine pour pouvoir conseiller mes clientes. Et après, en conseillant mes clientes, je me suis dit, pourquoi pas rajouter, c'était le début un petit peu des traiteurs et des plats cuisinés, à Bourgoin, il n'y avait pas de boucher qui faisait traiteur. J'ai été le premier à Bourgoin, quoi. Donc, après, j'ai fait un stage de traiteur, j'ai fait l'école supérieure des métiers de la viande à Paris, après j'ai fait des stages de traiteur. Et puis là, on a commencé à cuisiner. Et je me suis pris de passion pour la cuisine et pour ceux qui travaillent là-dedans. Ça m'a amené à travailler avec des cuisiniers, avec des grands chefs. Et je me suis passionné par ce métier. Ça peut vous étonner, mais c'est vrai que l'image du boucher a été, à mon avis, pas assez bien travaillée pour les jeunes, quoi. Voilà.
On a bien compris qu'on est loin du boucher avec son grand tablier et
voilà, c'est pas le tablier.
Son teint rougeau et son grand couteau.
Voilà. Alors le teint rougeau, il est facile. Je peux vous l'expliquer parce que moi je l'ai eu quand tout travaillait au froid toute la journée.
Ah ben oui, mais
pour rentrer au chaud, vous êtes écarlate.
Je comprends bien.
Alors le grand couteau, il y a rien de plus pratique pour couper un bon steak. Et le grand tablier, dans la mesure où il est propre, c'est pas gênant. Seulement c'est cette image de boucher un peu.
Ça fait un peu ogre un boucher.
Voilà.
Oui.
Je trouve que c'est dommage parce qu'on a écarté certains jeunes de cette profession qui aujourd'hui. Créer des embauches et on cherche des bouchers et on ne trouve pas de jeunes bouchers. C'est principalement par cette image,
et oui, tout à
cette
fait.
Mauvaise image qu'on a donnée à cette profession.
À cette profession.
Et si c'était à recommencer, vous feriez pareil?
Ben écoutez, je pense que oui, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas ça. Hein, je veux dire. Après, moi, j'aurais, à mon avis, quand j'ai commencé la boucherie, j'aurais pu faire autre chose. Parce que, si vous voulez, en marge de la boucherie, j'aime le commerce, j'aime les gens, j'aime les échanges, j'aime discuter le bout de gras parce que j'ai vu mes ancêtres sur les marchés. Donc, j'aurais pu faire, à partir du moment où j'avais du contact avec des gens, j'aurais pu faire un autre métier. Voilà.
Vous savez baratiner, quoi.
Non. Voilà. Alors, vous m'insultez, madame.
Non.
Ah, bon. Non, mais quand même, un peu de tenue.
André se lâche trop ce matin. André se lâche
alors,
trop.
Alors, que je vous dise. Vous savez, quand vous avez un commerce, si vous faites votre commerce juste par le baratin et par le terroir caisse, c'est pas la peine d'y aller parce que vous n'allez pas durer. Pour durer, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les gens, il faut avoir, faut que le terroir caisse arrive. Pas en dernier, parce que vous avez une entreprise et les salariés, il faut les payer. Mais il faut pas que ce soit le but principal de votre métier. Voilà. Si vous y allez que pour ça, faut pas y aller. C'est pas la peine. Voilà, est-ce que je veux dire?
Voilà. Tout à fait. Alors après, un jour, on se marie, hein.
Oui, voilà.
Et donc, voilà. Et alors, on se retrouve, femme de boucher. Certaines personnes. Oui. Alors, comment ça se passe? Oui, parce que elle avait peut-être pas choisi cette profession-là.
J'ai de la chance, ma femme est pas là, donc je vais pouvoir en parler tranquillement. Non, mais ma femme a eu de la chance, parce que quand elle est arrivée, tout était lancé. Et moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une femme qui m'a compris et qui m'a épaulé tout le long de ma vie. Alors que je reconnais que c'est pas toujours facile parce que les week-ends on travaille un petit peu à l'envers, on apporte du plaisir aux gens par le travail. Le dimanche à midi, c'est par ça, exemple, ouais. On terminait à 13h et quand on rentrait, une petite sieste s'imposait, donc j'étais pas disponible avant 14-15h le dimanche après-midi. Il y a des femmes qui n'acceptent pas ça. Et donc, elle m'a toujours suivi.
Soutenu.
Quoi. Elle m'a soutenu. Ouais. Et puis après, bon, l'entreprise a pris un peu d'ampleur. Donc, elle était au bureau. Donc, ma femme, je ne sais pas si elle regrette vraiment d'avoir épousé un boucher. Je ne pense pas. Il faut vous lui poser la question un jour. Mais elle n'a pas l'air. Elle a l'air plutôt heureuse. Elle a l'air bien.
Oui, on n'en doute pas. Hein.
Les petits-enfants sont bien. Mes filles venaient m'aider. Elles venaient passer les fêtes avec moi au travail. Elles étaient heureuses comme tout. Donc, voilà. C'est un état d'esprit. Hein. Je pense qu'il faut. on choisit, on y va, voilà.
Vous nous avez apporté là des journaux qui prouvent quand même que votre réputation a dépassé Bourgoin,
hein. Alors, voilà. Alors,
puisque vous avez, semble-t-il, rencontré des personnalités.
Voilà. Alors donc, premièrement, bon, ben, je vous ai dit, j'ai fait l'école supérieure de métier de la viande à Paris, ce qui fait que ça vous donne déjà une ouverture d'esprit. Et ensuite, vous savez qu'à Bourgoin, on a eu la chance d'avoir Guy Savoie, qui est un cuisinier de renom et qui n'a pas oublié non plus d'où il venait. Voilà. Et un jour, Guy Savoie m'a demandé de travailler avec lui. Et, donc j'ai accepté. Et puis, c'est pas le plus simple de travailler avec des grands chefs parce qu'ils sont très exigeants. C'est compliqué, lui à Paris, nous à Bourgoin. Et puis, il se trouve que ça se passait pas trop mal. Et qu'après, Guy Savoie, connaissant pas mal de monde, et quand on sait que vous servez un Guy Savoie à Paris, vous avez Anne-Sophie Pic qui est venue, donc vous avez une photo, elle est même venue à Champaret dans la boutique avec les chefs. J'ai eu l'honneur de régaler les deux chefs d'Anne-Sophie Pic à la maison. Hein, les deux chefs d'Anne-Sophie Pic donc, sont venus voir l'élevage de Charolais. Je les ai invités à déjeuner, alors je vous explique pas, faire un déjeuner aux deux chefs de Sophie Pic,
oui.
Qu'est-ce que je vais leur faire? Et là, j'aurais fait un gratin d'andouillette qui les avait séduits, et même le chef de la brasserie, je peux le dire, parce que c'est vrai, m'avait demandé la recette pour mettre la gratin d'andouillette à l'époque à la brasserie d'Anne-Sophie Pic. Donc l'histoire est que Anne-Sophie Pic est venue quand même à Champaret, dans la boutique. Tout le monde ne connaît pas Champaret, bon, moi j'ai lieu. On a eu Bernard Loiseau. Un jour, Bernard Loiseau, le chef de Bernard Loiseau, me téléphone en me disant « Voilà, je sais que vous faites des saucissons secs, parce qu'on avait monté une fabrique de saucissons secs aussi, parce que je cherchais toujours quelque chose. » Et je dis « Mais qu'est-ce que vous faites des saucissons secs ?» Il dit « Ben nous, les saucissons secs, on en met à l'apéritif. » Donc je lui ai envoyé des échantillons, et séduit par toutes les semaines, on lui a envoyé 10 kilos de saucissons secs à Bernard Loiseau, qui mettait.
Ouais, quand même.
Et puis en même temps, Bernard Loiseau était un type attachant, c'était un copain de Guy Savoie. On a sympathisé, c'est un fils de boucher, donc c'est vraiment un de ceux que je regrette parce qu'il était, c'était un personnage attachant. Après, j'ai rencontré Patrick Henri Roux, on n'a pas pu travailler ensemble parce qu'il y avait un problème de transport, et puis à l'époque j'étais un peu saturé. Patrick Henri Roux, qui est un type charmant. Après, j'ai rencontré Pierre Trois-Grouarouane aussi, on n'a pas travaillé avec lui parce que, bon voilà, lui il a ses Trois-Grouarouane, il a bien ses fournisseurs, mais on a eu l'occasion de déjeuner ensemble. Voilà, c'était enrichissant. On a travaillé beaucoup avec Paceda, le petit Nice à Marseille. Donc, toutes les semaines, il y avait un départ. C'est pas compliqué. Tous les mardis matins, on avait entre 200 et 300 kilos de viande qui partait pour les étoilés de France. On avait 20 salariés à plein temps.
Oui, j'allais aborder le problème des salariés, des gens que vous avez pu former.
Nous, on avait le fax. À l'époque, c'était le fax qui tombait le lundi sur le bureau, et le mardi matin, il fallait qu'à 9h, tout parte Paris, Marseille, et ainsi de suite. Sans compter tous les bons petits restaurants du coin. On a eu beaucoup de bons petits restaurants, hein. Je pense, il y en a un qui tourne encore, c'est le Saté. Et puis d'autres, hein, les Lentelles, tout ça. On avait beaucoup de petits restaurants qui ont travaillé. On s'engageait avec le restaurateur. On était au nom à la carte à Marseille, par exemple, de Paceda. Et la viande qu'on lui fournissait, elle était citée sur sa carte. Chez Savoie, pareil. Ce qui fait qu'on s'engageait, en même temps, on engageait notre nom et notre entreprise avec ces gens-là. Et ça se passait plutôt bien, quoi. Voilà l'histoire. Et c'est comme ça qu'on arrive à se passionner et à s'éclater. Alors après, tout s'enchaîne. J'ai eu l'honneur de faire une heure de radio en direct avec Jean-Pierre Coffre, parce que c'est sa voix qui avait provoqué ça. Et après, bon, on a eu l'émission de Petit Renaud. Il est venu à Champaret aussi avec sa voiture, tout ça. On a filmé ça dans le magasin. Après, on a fait cuire les côtes de bœuf au stade avec les rugbyman. On est allé, je mettais des bêtes en pension à Morestel chez Monsieur Blanc, qui me soignait ça à merveille. Et l'hiver, donc on est allé chez Blanc avec Petit Renaud. On a mangé le pot-au-feu chez Monsieur Blanc là-bas à Morestel. Ben, on a fait 4 saisons pour un festin avec Guy Savoie, passé sur Canal+. Et dans ce documentaire qui est passé un peu dans le monde, hein, on avait Pierre Gaillard de Malval, réputation des côtes rôties et tout ça, qui était avec nous. Il y avait Louis Marchand à l'époque, Jacques Eliane Muritz, c'est les gruyères, c'est les fromages de gruyère. Il y avait Yvon Madec, c'est les huîtres en Bretagne. Il y avait le comte de Lursalus, Alexandre de Lursalus, c'était Château d'Yquem, Sauternes. Donc on a eu la chance de côtoyer ces gens-là et on a fait plusieurs rencontres et plusieurs repas avec ces gens-là et c'est très très enrichissant et c'est passionnant. Un jour j'ai un journaliste du Monde qui m'appelle et qui me dit j'aimerais vous avoir au salon d'agriculture à Paris pour un débat sur la viande et la gastronomie. Donc il a fallu que je mène ma petite enquête sur les qualités, les bienfaits de la viande, et si bienfaits il y a, parce qu'à un moment on avait tendance à dire que on mangeait trop de viande, qu'il fallait manger que des légumes. Et donc je suis monté à Paris pour faire ce débat avec Savoie au salon d'agriculture. Et je m'étais documenté un peu avant, et c'est là que j'ai appris que les jeunes ne mangeaient plus assez de viande, parce que le fer qu'on assimile le mieux se trouve dans la viande, et qu'on a tendance à dire que c'est des épinards, mais c'est pas vrai. Il en a un peu, mais ça n'a rien à voir avec la viande. Ce qui fait que, je dévie un peu, mais, c'est, suite à l'enquête que j'avais menée pour ce débat, c'est là qu'on voit qu'il faut manger équilibré, surtout pas tourner le doigt à la viande, et que les jeunes ont besoin de viande pour les protéines et puis pour le fer. Et voilà quoi.
Est-ce que vous allez écrire vos mémoires?
Non, j'ai pas cette prétention. Je suis pas assez. Non. Pourquoi vous voulez les écrire mes mémoires?
Non,
parce que si. Vous... Non.
Non, mais ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Vos plats préférés, ce que les gens ont le mieux aimé dans votre cuisine.
Ouais, on a failli faire ça avec un de mes anciens collaborateurs, qui devait donner des cours de cuisine, parce que moi je suis pas cuisinier, j'ai pas du tout la prétention de me dire cuisinier. J'aime la cuisine, j'aime manger, et j'aime les petits trucs de la cuisine, et les recettes qui sont pas trop non plus.
Donc vous avez des cuisiniers qui travaillaient pour vous?
Ah ben bien sûr. J'avais plusieurs cuisiniers, plusieurs charcutiers, plusieurs bouchers, ce qui fait qu'on avait une équipe assez complémentaire.
Et moi, de combien de personnes environ?
Eh bien, lorsque j'ai cessé mon activité, j'avais 20 personnes. Et à un moment, on en a eu 30. On avait 10 personnes côté traiteur et 20 sur la boutique. Là aussi, c'est le challenge qu'on se met tous les jours. Et ces gens-là, il faut pouvoir les payer. Donc, c'est un souci. Faut pas dire, on n'a pas 20 salariés en disant, je les laisse travailler, je me repose. C'est pas vrai, parce qu'il faut assurer les salaires. En même temps, il faut donner des impulsions pour renouveler la carte de plats cuisinés, pour sortir des nouveaux produits, donner des idées, se servir des compétences, critiquer ce qui sort. Ça non plus, c'est pas facile. Dire à un chef cuisinier qui a plus de compétences que vous, non, ce produit me convient pas, il va pas venir dans mon entreprise et il faut faire différemment, c'est pas évident à faire. Et voilà, mais c'est dans l'ensemble, ça se passait plutôt bien, quoi.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'un monsieur blanc qui vous soignait bien vos bêtes. Alors, il y a quand même un raccourci entre la bête qui est dans le pré et puis celle qu'on retrouve dans l'assiette. Et entre les deux, il faut bien la tuer, cette bête.
Oui.
Et alors, où ça se passe? Parce qu'autrefois, il y avait des abattoirs à Bourgoin.
Moi, j'ai connu l'abattoir à la maison. Si vous voyez, mon grand-père, même mon père, avait à un moment l'abattoir à la maison. Donc c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir, il le faisait quoi, moi je l'ai pas fait. Et après l'abattoir municipal était obligatoire, donc ceux qui étaient sur Bourgoin allaient à Bourgoin, nous on allait à la Tour du Pin. Donc on a gardé, donc on emmenait nos bêtes à la Tour du Pin et on revenait chercher la marchandise le lendemain ou le surlendemain. Voilà. C'est un métier, le métier de tueur, que je n'aurais peut-être pas pu faire, mais bien fait.
Une question
voilà.
Parce que
c'est vrai. Ouais. Et Monsieur Blanc, pour ça, il était. C'est là qu'on voit qu'on a tous des dons. Monsieur Blanc, il aimait les bêtes. Et moi, je lui mettais des bêtes de qualité, quoi. Je lui mettais l'hiver, parce que l'hiver, j'avais pas le temps de m'occuper. Et bon, à l'époque, il y a une période où on avait une personne à la ferme qui s'occupait l'hiver. Et moi, après, j'avais plus le temps de faire ça. Et donc, j'avais. Je sais pas comment j'ai trouvé Monsieur Blanc. Il m'avait été conseillé. Et je lui mettais des bêtes. Il me soignait ça. Mais alors, vous savez, une bête qui était un peu sauvage, qui aurait tendance à vous foncer. Lui, il rentrait, il la caressait et il l'adoptait tout de suite. Il avait ce don. Il était calme.
Ça doit être dur après de voir
se
partir une bête.
C'est comme ça, on sait qu'il faut.
C'est la vie.
Il faut manger pour vivre, et pour manger, il faut du produit. Et
absolument.
Et à partir du moment où vous savez qu'il faut manger de la viande, donc c'est un passage obligatoire. Voilà.
Nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Pascal Parisot dans Les pieds dans le plat.
Mes parents sont bio, ne mangent que du bio, ne boivent que du bio, ne jurent que par bio.
chez nous, tout est bio, 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 bio. Le sel, il est bio, 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 bio. La poêle, elle est bio, 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 bio. Y'a rien qui est pas bio. Mon père, c'est bioman. Et ma mère, ben, c'est sa femme. Ensemble, ils sont bio, 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 bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur. Y'a même plus un morceau de beurre. Et moi je rêve d'un hamburger. Mes parents sont bio, 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 bio. N'achètent que du bio, 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 bio. Ne parlent que de bio, 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 bio. Ne prient que pour bio. Leurs amis sont bio, 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 bio. Quand ils se voient bio, 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 bio. C'est à celui qui bio, 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 bio sera le plus bio. Mon père c'est
bioman.
Marié à biowoman. Ensemble ils sont bio, 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 bio. On mange des blettes ou bien des bêtes.
C'est la même chose.
Soit disant que c'est plein de vitamines. Moi j'irais bien en prendre ailleurs. Par exemple dans un hamburger. À la maison, bio, 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 bio. Même les rats sont bio, 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 bio. Même les claques sont bio, 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 bio. Tout le monde, il est 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 bio.
Vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 à l'écoute de Fenêtre sur cour. Avec nous aujourd'hui, nous avons Monsieur Robert Morel, boucher, charcutier, traiteur, et qui a exercé pendant de longues années à Champaret. Parlez-nous de votre parcours, véritable réussite au cours du temps, et vous avez une équipe qui a beaucoup grandi, donc vous allez nous expliquer comment tout cela s'est passé.
Très bien, bah écoutez, j'ai commencé seul célibataire avec un compagnon, un collaborateur. À l'époque, donc, c'était la petite boutique où on faisait tout, on passait la serpillière, on faisait les vitres, enfin, on a vite après pris une femme de ménage et tout ça, mais les premiers jours, on faisait tout ce qu'on a pu. J'ai même connu, je crois que la première année ou la deuxième année, mon collaborateur qui s'est coupé, il avait le bras en écharpe pour Noël, donc il faisait la caisse et moi je faisais le boulot et, et bon, on a passé Noël comme ça et après on a vite créé des postes pour se faire épauler. En 85, on a créé, bon, ensuite, je prends des raccourcis, mais suite au cours de cuisine que j'avais, je sentais qu'il y avait une demande en traiteur. Pour ce faire, bon, j'avais un copain qui me disait, mais qui voulait faire de la cuisine et du traiteur, il n'était pas du tout là-dedans. Et bah, je lui dis, écoute, tu viens chez moi, tu vois ce que ça donne, on fait un peu de cuisine, on voit, et puis si un jour on sent que ça démarre, on monte une société. On a eu vite un peu de succès, voilà. Et le plus dur, c'est de faire savoir qu'on a des compétences. Parce que je dis toujours, savoir-faire et faire savoir. Savoir-faire, c'est déjà pas évident, et faire savoir, c'est pas évident non plus. Et que pour que ça marche, il faut les deux réunis, quoi. Je me rappelle, on avait fait l'inauguration de la caisse d'épargne à Bourouin. On avait traité ça ras les pâquerettes pour pouvoir passer. Et on s'était fait, ça nous a servi de tremplin, je me rappelle de ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont, je sais pas si vous y étiez, et qui ont été surpris de voir le buffet. On a créé donc Morel et Brissot Traiteur en 1985, pour ce qui est de mariage, de soirée et tout ça. Et bon, il est évident que moi je pouvais pas être à la boutique aux soirées et tout ça, donc je faisais tant bien que mal un peu les deux. Mais François Brissot à l'époque assurait la partie traiteur et ça marchait plutôt bien, voire même très bien. Donc de ce côté-là, on a créé à peu près une dizaine de postes sur la partie traiteur. Je dis à peu près parce qu'on avait pas mal de gens qui venaient en extra, quoi, les serveuses et tout ça, quoi. Donc après la partie traiteur, on a vendu. Bon, les années passent. Malheureusement, on vieillit. Il faut avoir la tête et les bras et le physique dans des métiers comme ça. Compte aussi parce qu'on fatigue quand c'est la nuit, le jour, c'est pas facile. Donc en 95, on a vendu le Morel et Brissot Traiteur. À l'époque, il y avait une dizaine de collaborateurs. En 2009, on a vendu la boucherie avec 20 collaborateurs. Et ce qui fait que on a créé en 40 ans sur la boucherie, boucherie et traiteur. On a créé environ 30 CDI et on a formé une trentaine d'apprentis. Quand je dis on a créé 30 CDI, il est évident qu'on a dû passer un peu plus de personnes. Vous avez des gens qui restent 3 ans chez vous, qui s'en vont. Voilà. Dans l'ensemble, nos collaborateurs restaient assez longtemps. Voilà, j'en étais plutôt fier d'ailleurs, mais voilà, mais puis ça apporte un confort pour tout le monde quand ça se passe bien. Et donc on a dû passer 40 à 50 personnes en tout dans l'entreprise. Je parle de salariés ouvriers, oui. Je compte pas les apprentis.
Oui, bien sûr. Voilà.
Vous avez pris la grosse tête ?
Pas du tout, parce que d'abord, vous savez...
Je vois que vous avez de l'humour, non, vous êtes un pince sans rire.
Qui c'est qui vous a dit ça?
C'est écrit là.
Non mais je reste humble, moi j'ai pas votre tempérament madame, je suis obligé. Donc... Non mais vous savez, quand vous êtes dans des métiers comme ça et que vous avez 20 voire 30 salariés, il faut rester humble. Parce que fier de ce que vous faites, fier d'avancer, tirer toujours la qualité vers le haut, content d'avoir du travail, mais il faut rester humble parce que c'est jamais fait d'avance. L'erreur, on en a fait. Hein, l'erreur est vite arrivée à tous les niveaux. Et on peut faire des erreurs avec le personnel, on peut faire des erreurs avec les clients. Et ça y est, c'est des produits frais. Il peut y avoir l'intoxication alimentaire, il peut y avoir un tas de choses. En 40 ans, on n'a jamais eu un prud'homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu de chance, on est passé à travers beaucoup d'étapes. On a pas eu, on vous dirait que la chance, ça se provoque, mais voilà quoi. Donc avec Savoie et puis Jean-Paul Jod et Canal+, on a vécu ça sans prendre conscience de ce qui nous arrivait, parce que ben voilà, ça faisait partie maintenant des choses. On était parti en route. Bon petit Renault, coffre et tout ça. Donc je reconnais que ça faisait partie des moments de plaisir quand même, même si c'était des fois dur parce qu'il fallait assurer le travail, les réceptions avec Canal+, l'emmener à la ferme et tout ça. Donc dès 3-4 heures du matin, il fallait compenser en se levant plus tôt, en commençant plus tôt. Et voilà, alors je me suis occupé aussi pendant 6 ans du salon de la gastronomie à Bourgoin.
Oui.
Et la dernière année où j'étais président, j'étais président, mais là encore, je dois rester humble parce que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir avec moi des équipes aussi d'artisans à l'époque qui tenaient la route et qui étaient carrés. Hein, je pense et Robert Rivard, Daniel Arnaud, Maurice Perrin, et Bernard Lantel. Mais il y avait Ducret et Dussaté. Il y avait, enfin, j'en oublie, mais c'était des artisans sérieux et présider une association comme ça, j'allais dire, fallait donner l'impulsion, mais c'était du billard parce que derrière c'était carré. On savait que les comptes étaient bien tenus, on savait que tout le monde assumait son travail, on savait. C'est peut-être un petit peu moins facile maintenant, mais ce serait peut-être un peu moins facile à faire maintenant, mais encore que j'estime que rien n'est impossible, il faut après motiver. Hein. Mais là, on a eu, j'ai trouvé beaucoup de plaisir aussi à organiser ça. Hein. Voilà.
Est-ce que vous auriez une recette pour les fêtes de fin d'année ?
Vous êtes gourmand, hein, hein ? Non, mais bien sûr que je ne suis pas venu. Si je vous ai dit que j'ai fait un petit peu de cuisine et que j'aime faire la cuisine, je suis venu forcément avec une petite recette ou deux à vous donner, sachant que c'est une petite recette. Alors, l'histoire encore de cette recette, je reste humble, c'est une recette Robert Morel sans être une recette Robert Morel. Si vous voulez, je travaillais beaucoup avec Laurent Thomas des Sequoia, on travaillait beaucoup. Et un jour, je vais déjeuner chez Laurent, bien sûr, et il me sert une soupe de moules. Je me suis régalé avec ça. Il faisait un velouté de moules qui était exceptionnel. Je rentre, j'ai dit au chef, faut faire ça, faut faire un velouté de moules. Il me dit, mais trouve une recette, machin, tout. Alors, parce que les chefs, on leur demande des recettes, mais ils donnent...
qu'ils ont envie de donner.
Voilà, donc je peux comprendre. On a fait des essais, la première était moyenne, la deuxième un peu moins bonne, et la troisième était parfaite. Donc on a adopté une recette de soupe de moules ou velouté de moules, vous l'appelez comme vous voulez. On a fait... un tabac avec ça, je dis un tabac, c'est vrai qu'on en a vendu beaucoup, et vous allez voir que quand vous allez la faire, parce que je suis sûr que c'est à votre portée, si je le fais, donc vous pouvez le faire,
pour les fêtes
faites votre velouté de moules, et je vais même vous dire...
Des moules de bouchou ?
C'est préférable, c'est les meilleurs. Vous connaissez les moules de bouchou ?
Bien sûr,
oh, pas bravo. Tout de même.
Ah ouais. C'est une gastronome alors ?
Hein ? En herbe.
En herbe.
Alors allons-y, on vous écoute.
Ben, vous verrez la soupe de moules de bouchou à la julienne de poireaux. Donc j'avais anticipé, j'avais bien mis bouchou déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai que c'est les meilleures, elles sont petites. C'est plus de travail quand elle est décortique et tout ça, mais c'est les meilleures. Ceci dit, ça peut se faire avec des moules. Des fois, j'ai eu fait en période où des moules qui viennent de... Voilà, je ne veux pas dire de l'étranger parce que faut éviter, mais même en France, vous n'avez pas que les bouchots, vous avez d'autres moules qui sont corrects. Donc là, pour faire cette soupe de moule, vous allez prendre 4 blancs de poireaux émincés. Hein. Quand je dis émincés, c'est coupé vraiment petit. Hein. 5 tomates fraîches épépinées et concassées. Alors, épépinées, vous enlevez ce que je vais vous dire. Concassées, coupées vraiment petit. Hein, c'est le plus long à faire. Il vous faut 400 à 500 grammes de moule décortiqué. Donc, vous demandez à votre passionné quelle quantité il faut de moule, de bouchot, pour avoir 500 grammes de chair. Il va vous falloir un vin blanc sec. Il vous faut entre les 3/4 d'un litre de vin blanc. Alors, il est évident que si vous mettez un vin blanc qui, sans prendre un grand cru, si vous mettez un bon vin blanc, le résultat sera forcément meilleur.
Hein? Oui.
Alsace, c'est bien.
Vous aimez le vin blanc?
Oui.
Bon,
oui.
Alors la prochaine fois que je viens, je vous amène une bouteille.
D'accord. Hein?
D'accord. Par contre, vous allez me faire goûter.
On fera la soupe.
C'est pas pareil.
Non.
Voilà. Alors, ensuite.
Vous allez être surpris.
Bon. Ensuite, bon, sel, poivre, thym, laurier, pointe, et puis du safran. Hein? Donc, voilà. Le safran, une pointe de couteau, un demi-oignon, 50 grammes de beurre, consommé ou eau. Je mets ni l'un ni l'autre, je me sers de l'eau des moules.
Des moules. Hein,
voilà. Donc si vous voyez que ça s'est trop évaporé, vous rajoutez un petit peu d'eau. Vous pouvez très bien avoir un petit consommé. Si vous avez un petit bouillon, vous le mettez dedans, mais c'est pas vraiment pas obligatoire. 5 cuillères à soupe de sauce béchamel. D'accord.
Ah oui.
Donc voilà. Alors la préparation, vous allez peler vos tomates épinées et concassées. Donc je vous ai expliqué comment il fallait faire. Vous allez faire ouvrir vos moules dans le vin blanc. Ça se fait tout seul. Mmh. Hein. Dedans, quand vous mettez vos moules dans la casserole, vous mettez l'oignon, hein, que vous allez couper en deux. Vous mettez une feuille de laurier. Le laurier, forcez pas trop, parce que le laurier, c'est vite trop prononcé. Une branche de thym. Voilà. Donc, quand les moules se sont ouvertes, ont rendu leur eau, là, vous allez les sortir. C'est le plus long. Il faut les décortiquer. Donc, il est évident qu'avant, les moules, vous les avez bien lavées. Vous les avez passées sous l'eau une par une. Hein, vous connaissez, vous savez faire des moules. Donc, voilà. Bon, après, il faut les débarrasser et les décortiquer de leur coquille. Hein. Quand elles sont tièdes, vous faites suer au beurre les blancs de poireaux sans les faire brunir. Attention que ça crame vite. Vous ajoutez les tomates concassées, 5 cuillères à soupe de béchamel chaude. Vous mélangez pour obtenir une consistance assez lisse. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre le fouet et vous fouettez en mélangeant tout ça. Alors après, vous mesurez la cuisson des moules et vous complétez éventuellement avec un peu d'eau de consommé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon, voilà, en principe, les moules, quand elles ont rendu, quand elles sont ouvertes, elles sont cuites, hein, vous les goûtez pour voir, mais voilà. Vous ajoutez cette cuisson à la préparation, donc le jus des moules, hein, que vous avez, moi je le filtre, je le passe au chinois avant, pour éviter s'il reste un petit peu de sale, voilà. Vous versez donc les moules dedans, et vous faites bouillonner tout ça pendant une quinzaine de minutes. Donc la sauce béchamel, est-ce que c'est utile de vous donner la recette de la sauce béchamel? Non, parce que si vous savez faire la soupe, vous savez faire la béchamel. Quand le tout est terminé, vous allez voir, c'est ou trop clair, ou trop épais, voilà. Si c'est trop liquide, vous faites un beurre manié. Pour une quantité comme ça, vous allez prendre une demi-cuillère à soupe de beurre, une demi-cuillère à soupe de farine, vous écrasez le tout. Vous mettez ça dans votre sauce, vous fouettez pour pas que ça fasse des grumeaux. Voilà. Et là, bon, la faire réjouir, vous allez goûter ça, vous allez vous régaler. Vous n'avez pas oublié de mettre le safran, hein. Alors, le safran, c'est pareil, vous le mettez la pointe de couteau. Si vous goûtez, si vous estimez qu'il n'y a pas assez de goût de safran, vous en rajoutez un petit peu. Le safran, c'est ce qui coûte le plus cher dans la préparation. Mais qui apporte quand même, c'est presque indispensable. Si vous prenez 2 kilos de moule, vous avez environ 20 personnes. Le résultat est pour 20 personnes.
Ah oui. La table est pas assez grande.
Eh ben, vous divisez par deux. Hein? Vous allez faire comme ça, ou divisez, vous pouvez diviser par 4 aussi si vous voulez. Et vous allez voir, vous allez penser à moi pour les fêtes de fin d'année. Si c'est vraiment c'est bon, si vous voulez me faire un cadeau, je vous donnerai mon adresse, d'accord?
Alors, vous appelle.
Je vous ai ramené une autre petite recette. C'est un sorbet de la chartreuse. La chartreuse, c'est bien de chez nous. C'est facile à faire. Et ça, c'est pareil, ça fait tilt à chaque fois parce que tout le monde aime la chartreuse. C'est un produit en plus qui est fait par les moines, donc normalement ça peut pas faire de mal, on peut en abuser. Pareil qu'on a pas mal à la tête le lendemain, voilà, parce que c'est fait par les moines.
Hein. Oui, d'accord avec
moi.
Ah, mais tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, le sorbet à la chartreuse pour finir ce petit repas, c'est pour un plus à la bûche ou au travail du pâtissier. Voilà, c'est un petit plaisir maison avec un produit local. Alors, vous allez prendre 6 décilitres d'eau. Là, vous devez faire à peu près une quinzaine de verrines, je pense. 6 décilitres d'eau, 400 grammes de sucre, 2 citrons pressés, 1 décilitre de chartreuse. Vous faites fondre le sucre dans l'eau pour faire un sirop. Vous laissez refroidir. quand c'est froid, vous ajoutez les citrons, hein, les deux citrons pressés. Vous ajoutez la chartreuse, tout ça au sirop, qui est froid. Et puis, vous mettez ça à la sorbetière. Et ça, c'est tout seul. La sorbetière, elle tourne, elle fait le travail. Alors, si vous faites ça, si vous pouvez très bien, si vous avez une sorbetière, et si la sorbetière ne vous gêne pas, vous pouvez préparer vos ingrédients, les ingrédients la veille et faire tourner la sorbetière au dernier moment et vous les mettez direct dans les verrines. Vous apportez ça en fin de repas avant le dessert, avant, voilà, tout de suite après le fromage ou après le café et avant la bûche ou avant le gâteau. Et c'est un petit plus sympathique qui est à la portée de tout le monde. C'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher, ça va vous permettre.
Eh ben, on a déjà une partie de notre repas de Noël.
Voilà.
Eh bien, Monsieur Morel, il reste à vous remercier pour d'abord ces bonnes recettes et puis tout ce que vous nous avez raconté, c'était passionnant.
Bah, écoutez, moi j'ai passé un bon moment avec vous.
Eh bien, écoutez, nous aussi. Oui. Alors, voilà, j'étais... on est contente parce que, hein, on s'est débrouillé avec André.
J'étais un peu intimidé en arrivant, mais j'aurais presque envie que ça dure encore un petit peu.
Bon, hein, bah, hein, alors,
vous êtes
on
tellement
vous fera
sympathique.
Revenir, hein,
voilà, promis, voilà, je reviendrai.
Hein. Et puis, on vous fera goûter la soupe qu'on aura faite. Et vous nous direz si elle est réussie ou ce qui manque.
Voilà.
Écoutez, avec toutes ces bonnes choses, voilà, je me demande comment vous faites pour pas être gros, vous. Hein, voilà.
Mais... vous me regardez pas de profil, c'est pour ça.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci, parce que c'était vraiment un très bon moment. Et puis, ben, maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer
faire les recettes,
tout ce qu'on sait.
Merci à vous.
Eh bien, merci, monsieur Morel. Hein, nous avons, ben, pour les fêtes, notre soupe de moule. Enfin, nous l'avons quand nous l'aurons fabriquée, ce qui n'est pas encore tout à fait réalisé. Nous avons notre sorbet. Et bien sûr, sur une table dauphinoise, il faut aussi du fromage. Alors, ce fromage, eh bien, avant d'aller retrouver un jeune fromager qui s'est installé également sur le quartier de Champaret, à croire que ce quartier est un quartier de gourmets et de gourmands, et qui s'appelle Alexis Voûte, eh bien, j'ai eu envie de vous dire, ou de vous lire, enfin, de vous dire plutôt, une poésie célèbre écrite par un non moins célèbre auteur, Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Alors, le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour. Aujourd'hui, une émission spéciale fête de fin d'année. Et quand on pense fête de fin d'année, on pense gastronomie. Alors, entre la soupe et le dessert, nous n'avons pas oublié le fromage. Nous sommes allés à la rencontre d'Alexis Voûte, jeune fromager tout récemment installé à Champaret, dynamique et gastronomique, quartier de Bourgoin-Jallieu.
Et un nouveau magasin ? Qu'est-ce que c'est ? La fromagerie de Champaret. C'est nouveau, ça, tu connais ? Et si on allait jeter un œil pour voir ? Allez, on y va.
Bonjour.
Ça sent vraiment le fromage. Hein. On est baigné là.
On a l'impression d'être dans un chalet de montagne, franchement. Et on se dit qu'on va découvrir des choses extrêmement bonnes à manger, je pense. Et il y a même des choses à boire, hein. Parce que le fromage sans le vin, c'est quand même dommage. Bonjour Alexis.
Bonjour.
La première question, oui, merci de nous accueillir. Et moi quand même, je me demande comment est-ce qu'on devient fromager à votre âge.
J'aime bien la gastronomie, donc j'aime bien tout ce qui est
tout ce qui est fromage et tout déjà au début. Et en fait, je me suis lancé dans le vin en auto-entrepreneur au début et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait bien aller avec le vin. Et voilà, bah, j'ai atterri dans le fromage dans une formation sur Lyon. C'est un CQP fromager, donc il y en a un à Lyon, un à Paris. Moi, j'ai fait celui de Lyon en alternance à la Lettrie Bayard à Grenoble. Et ça s'est super bien passé avec beaucoup de professionnels qui étaient très bien. Et du coup, j'ai décidé de me lancer directement vu que le local était à vendre ici. Voilà. Avec un peu de vin.
Et la filière, ça dure combien de temps, la filière de formation ?
En fait, la formation dure un an. Donc, un an en alternance, j'alterne entre l'école, une semaine d'école et trois semaines de travail.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez tout juste 19 ans. C'est
ça. Maintenant, j'ai passé les 20 ans.
Ah, c'est bien alors. Bon, j'ai raté une étape.
Je suis grand maintenant.
Oui, c'est bien. Donc, c'est étonnant, je veux dire, créer son entreprise à 19 ans, c'est assez bluffant pour nous, hein. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là.
Bah pour moi, en fait, c'était un créneau à prendre parce que sur Bourgoin, il n'y a pas de fromagerie. Donc l'étude de marché était vite faite. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais parce que même si je suis un peu jeune, j'ai décidé de me lancer parce que le local était bien positionné. C'est un quartier qui bouge bien parce qu'il y a deux traiteurs, deux boulangeries, il y a pas mal de monde qui passe, les places sont gratuites. Donc,
Pour à Bourgoin, vous êtes loin quand même par rapport au centre. Nous, si on vient chercher du fromage là, ça nous fait marcher.
Ça fait du bien de marcher.
Par rapport aux autres commerçants, tout se passe bien parce qu'ils avaient quand même des rayons de fromage, hein.
Enfin, ils avaient un peu de fromage pour compléter un peu leur gamme parce qu'il devait y avoir de la demande, mais pas trop d'offres. Et maintenant, je m'entends bien avec tout le monde dans le quartier, donc il n'y a pas de raison. Après, chacun son métier.
Quoi qu'il en soit, quand on est dans un quartier de magasins alimentaires, la clientèle des uns attire la clientèle des autres et c'est plutôt profitable à tout le monde, en principe.
Oui, c'est sûr, c'est ce que tout le monde m'a dit, hein. Même les commerçants qui se trouvent à côté, ils m'ont dit que c'était une bonne chose pour le quartier, qu'il y ait une autre diversité d'alimentation, quoi, de produits.
Comment s'installe-t-on et avec quelles aides ?
Avec l'aide des parents, beaucoup, et puis après, les banques, malheureusement, n'ont pas suivi au début, mais j'ai fait un petit crédit à des amis, puis j'ai juste à les rembourser, puis c'est à taux zéro, donc c'est mieux.
Oui, moi j'ai vu quand même qu'il y avait une plateforme participative, quand même, ça c'est quelque chose dans l'air du temps, parlez-nous de ça.
Ouais, donc j'ai fait un site en fait My Major Company, donc c'est un appel aux dons. J'ai demandé 4 000 euros, donc à des internautes soit pas connus, soit des amis, de la famille. Et j'ai récolté comme ça 4 000 euros.
Vous avez obtenu.
Oui.
Comment vous faites votre choix de fromage? Où vous allez? Comment vous contactez vos fournisseurs?
Alors en fait j'ai pas mal de petits producteurs. Effectivement, je suis allé voir pas mal de petits producteurs dans leur ferme directement. Pour les Saint-Marcelin, Saint-Félicien, tout ce qui est de la région. Et puis ensuite j'ai une coopérative d'achat qui se situe sur Lyon, où je prends aussi 2-3 fromages que je peux pas aller chercher moi, comme le Marois, le Master, pas mal de fromages un peu loin.
Donc chez nous on est gâtés, on dit un fromage par jour, au moins 365 fromages, c'est ça si je me trompe pas, peut-être plus même. Vous dans votre magasin vous en avez combien de sortes par exemple?
Là en fait je varie, j'ai environ une soixantaine de variétés dans la banque et je varie un peu dans les semaines, j'en rentre 5, j'en enlève 5 pour faire découvrir un peu d'autres fromages aux clients parce que j'ai quand même les clients qui reviennent pour l'instant donc j'essaie de leur faire découvrir pas mal d'autres choses.
Oui, moi j'ai découvert ce week-end un fromage au piment d'Espelette que j'ai bien aimé.
Oui, c'est un brebis basque en fait au piment d'Espelette, c'est très bon.
Et moi on m'a parlé d'un comté particulièrement goûteux.
C'est un comté ouais, qui est sympa et que je travaille en direct d'ailleurs avec le producteur et qui est très bon.
Et aussi un fromage à la bière qui m'a beaucoup plu.
Ça c'est un cheddar irlandais en fait, cheddar à la Guinness. Et c'est vrai que ça a une certaine originalité qui plaît bien.
Pour faire découvrir vos fromages, ici on est attiré par l'odeur, alléchée, on a bien envie de les goûter d'ailleurs.
Et
donc je voulais savoir, est-ce que vous faites des dégustations de fromages? Je vois qu'il y a une table, des tabourets, ça incite à s'installer et puis à goûter quoi.
Au début en fait je voulais faire des dégustations, mais après je me suis rendu compte que tout seul ça allait être un peu dur de gérer la vente plus les dégustations. Donc j'attends un petit peu pour me lancer dans ça et... Je fais déguster les fromages si on me le demande, sinon je mets pas mal de petites assiettes pour goûter de temps en temps. Ça permet de goûter aussi.
Est-ce que vous avez une filière bio?
J'ai 2-3 produits bio, après c'est pas trop ce que je recherche, mais mon bleu du Vercors par exemple est bio. J'ai 2-3 tomes de Savoie qui sont bio, mais c'est pas ce que je recherche particulièrement.
Mais comment on le conserve le fromage? Parce que j'imagine quand même que ça se vend pas d'un seul coup et qu'il faut quand même certaines bonnes conditions pour le conserver correctement.
Déjà, on l'affine, même s'il vieillit, entre guillemets, on arrive à le rendre un peu meilleur, même. Et donc, j'ai une grande chambre froide qui me permet de stocker mes réserves de fromage.
Bon, la conservation, c'est une chose, mais comment améliore-t-on le fromage? C'est ça, l'affinage, je crois, non?
On va dire que je l'humidifie, par exemple, pour les comtés, pour le Beaufort, pour le Gruyère suisse. Ou alors, je les retourne, je les touche pas mal, en fait, on va dire, pour les petits fromages de chèvre assez frais. Il y a des produits assez frais que je peux mettre directement en vitrine. Et sinon, des fois, je les affine une semaine, deux semaines, voire un mois pour les comtés, pour deux mois. Oui.
Donc, ça demande quand même un certain stock.
Oui, ça demande un certain stock, donc à avoir déjà, parce que toutes les commandes, je les prépare pas toutes les semaines non plus. Je les prépare toutes les deux semaines, trois semaines, ça dépend des producteurs. Donc ça me permet aussi d'avoir un stock suffisamment grand pour pouvoir varier.
Donc ce qui veut dire qu'on peut conserver facilement trois semaines un fromage.
Ça dépend lequel, mais un comté, il n'y a pas de souci, on ouais. peut largement le conserver trois semaines.
À quoi riment les dates de péremption sur les fromages? Si on peut le garder longtemps et le faire vieillir?
Déjà, il n'y a pas de date de péremption sur le fromage, c'est une DLUO, donc c'est une date d'utilisation optimale. C'est pas une DLC qui, comme la crème ou les œufs ou le beurre, on peut le consommer bien après.
Est-ce qu'on garde le fromage chez soi, dans le frigo ou pas?
Oui, il vaut mieux le mettre au frigo, dans le bac à légumes, si c'est possible, s'il y a de la place.
Pour le consommateur, comment est-ce qu'on reconnaît qu'un fromage est à point?
Il y a pas mal de connaisseurs, mine de rien, qui connaissent un peu le fromage, et puis sinon, on va voir au niveau gustatif s'il va être... très bon, mais après il pourrait être très bien aussi assez frais, donc on peut pas trop s'en apercevoir, mis à part faire confiance au fromager.
Est-ce qu'il y a des saisons pour le fromage?
Effectivement, il y a des saisons pour le fromage. Par exemple, là, pour le fromage de chèvre, on va attendre un petit peu, parce que là, elles font les petits en ce moment, du coup, ça va pas être possible d'avoir trop de fromage de chèvre. Enfin, maintenant, les producteurs désaisonnalisent un petit peu pour en avoir toute l'année, parce que enfin, le gros du fromager, c'est quand même novembre, décembre, janvier, donc s'ils ont pas de fromage de chèvre à cette période, c'est dur.
On oppose souvent les fromages au lait cru et ceux au lait pasteurisé. Vous en pensez quoi?
C'est un grand débat. Les fromages pasteurisés, après, il y en a des bons. Hein. Il y a des fromages pasteurisés qui sont très bons. J'en vends deux, trois. Puis c'est, pour les femmes enceintes, c'est très pratique. Ensuite, les fromages au lait cru, niveau gustatif, c'est vraiment ce qu'on recherche parce que il reste encore là. Il reste encore les bactéries, on va dire, mais des bonnes bactéries, les champignons. Et donc, ils seront meilleurs.
Est-ce que vous avez des préférences personnelles en matière de fromage? Selon les régions, selon les types de fromage, ou est-ce que vous adaptez aux clients?
Donc en fait, enfin, quand je prépare un plateau, par exemple, je fais des assortiments, donc je mets un peu de tous les fromages. Moi personnellement, j'aime un peu beaucoup de tous les fromages. Je fais préférence pour les pâtes cuites. J'adore tout ce qui est comté, Gruyère suisse, Beaufort. J'aime vraiment ça. Et sinon, bah tous les petits producteurs avec qui je travaille, c'est sympa aussi de faire découvrir aux clients les petits producteurs surtout de la région.
Est-il important pour vous, en quelque sorte, de représenter le monde, les régions, les pays producteurs?
Bah, c'est très important. Tout d'abord, ça fait parler déjà avec le client. C'est sympa. Peut-être qu'il est né dans une autre région, qu'il connaît bien ce fromage. C'est sympa d'en parler. Puis j'ai même des clients qui me ramènent des fromages d'autres régions, donc ça me permet de les goûter, parce que les petits producteurs qui n'ont pas d'AOP, qui n'ont pas d'AOC, je ne les connais pas, les fromages d'autres régions, donc ça permet d'échanger.
Et du côté des fromages étrangers, qu'est-ce que vous aimez? Parce que là, vous avez un grand choix de fromages français, mais qu'est-ce que vous avez de l'extérieur?
Alors, j'ai pas mal de pecorino, donc d'Italie. J'ai aussi 2-3 fromages d'Espagne, manchego, pâte brebis. Pas mal de fromages aussi d'Irlande, d'Angleterre. J'ai le Stilton anglais. Je vais encore diversifier un peu pour faire découvrir d'autres fromages. Oui, bah, j'ai un gouda fermier, en fait, aussi d'Hollande. Voilà.
Est-ce qu'il y a des tendances, des modes dans les fromages? Il y a des modes dans plein de trucs. Alors, est-ce qu'il y en a en fromage, en matière de fromage?
Bah déjà, sur un client sur trois, je suis sûr de vendre du comté. Et puis après, après il y a tous les petits Saint-Marcelin de la région, des petits chèvres aussi de la région que je vends bien. Et puis, il y a le Bria Savarin à la truffe, qui est très à la mode en ce moment, qui est très très bon.
Et d'ailleurs, on est en train de voir dans votre magasin, là, il y a un boc un peu transparent avec des œufs à la truffe. Vous allez nous en parler?
Alors effectivement, c'est des œufs à la truffe, donc pour faire une bonne omelette, ça prend bien le parfum. Je vais vous faire sentir après. Et il y a les truffes aussi fraîches, donc que je vends aussi à l'unité. En fait, en mettant les truffes dedans le bocal avec les œufs, ça prend le parfum à l'intérieur, parce que la coquille n'est pas très épaisse.
Ça sent vraiment la truffe. Je ne sais pas si j'ai un riche manche là.
Et les truffes ne servent pas qu'à parfumer les œufs, elles sont aussi en vente.
Elles sont aussi en vente.
On va faire un petit peu le tour de la boutique, parce qu'on voit plein de choses intéressantes, hein, pas que du fromage. Déjà, vous avez une belle variété de vins. Hein, visiblement avec un choix très large. Vous pouvez nous en citer un ou deux?
Donc j'ai pas mal de vins, ouais, qui sont très sympas. Terre d'Épices qui sera très bien. C'est un producteur qui se situe à Grignan-les-Adhémar vers Montélimar et qui va très bien avec le gibier, la viande rouge. Donc ça, c'est un vin qui est de table, qui est très bien.
Il me semble que vous l'avez invité dans votre magasin il n'y a pas longtemps, ce producteur.
Effectivement, je fais des dégustations de temps en temps avec les producteurs, donc qui viennent faire goûter leur vin bénévolement eux aussi. Et c'est très sympa pour le client, puis même pour le producteur de voir la clientèle qui attire.
Un autre vin qui vous amuse, qui vous parle ?
Là, j'ai un vin qui s'appelle Les Darons, donc c'est une étiquette un peu sympa que je vends 7 €, qui est pas très cher et qui est très très bon. C'est celui que j'ai le plus vendu depuis le début. C'est un rouge.
Vous nous avez dit dans un premier temps que vous étiez plutôt dirigé vers le vin et que vous êtes venu dans un second temps vers le fromage.
J'ai pas mal travaillé avec des sommeliers, mais j'ai pas fait d'études du tout sur le vin. Et puis en fait, même dans ma formation pour le fromage, on regardait les accords avec le vin déjà. On voyait un peu les accords.
Alors, vos clients, est-ce que vous les incitez ou est-ce que vous les dirigez un peu vers le vin pour une association vin-fromage ou pas du tout ?
Bizarrement, en fait, les clients, ils vont d'eux-mêmes au vin, donc j'ai juste à les conseiller un petit peu. Donc, après, oui, c'est vrai que le vin, j'en vends pas mal, donc pour l'instant, ça marche bien.
Contrairement à ce qu'on peut penser, je veux dire, le vin blanc s'accorde parfaitement avec le fromage.
Pour beaucoup de personnes, le vin rouge va mieux que le fromage. Après, le vin blanc aura beaucoup plus d'accord avec le fromage que le vin rouge.
Oui, ça se contrarie pas, en fait, c'est ça. Ça laisse plus la place au fromage, peut-être.
Ce sera plus doux pour le fromage.
Vous préconisez des vins moelleux ou des vins plutôt secs ?
Pour le Roquefort, pour tout ce qui est bleu, il y a les vins moelleux, ce sera meilleur.
Oui, super.
Et pour tous les vins un peu secs, blancs, ce sera plutôt les fromages au lait de chèvre qui seront préconisés. Je le cache, c'est mon dernier carton. C'est un vin du Languedoc qui est très bon. Bah, c'est un vin entre copains qui n'a pas de défaut, qui plaît beaucoup à tout le monde.
Et vous avez des belles bouteilles, là, des Jéroboam ou des, comment on appelle ces grandes bouteilles
Magnum.
Ceux-là, c'est juste des Magnum, ouais. J'ai des Jéroboam qui vont arriver après, mais même en chartreuse qui vont. Oui. Ça va être sympa.
Vous faites de la chartreuse aussi, alors
J'en ferai normalement en période de fête, voilà. Pour les cadeaux notamment.
Qu'est-ce que vous pensez de la bière pour accompagner un fromage ?
Oui, on a vu que la bière allait pas mal avec le fromage. Donc il y a pas mal d'accords, bière-fromage, avec le maroilles notamment, c'est très bon.
Et alors, quel type de bière ?
Pour un maroilles, une bière ambrée sera un peu mieux que bière blonde qui sera un peu moins forte. Donc le maroilles étant un peu costaud, sera un peu mieux.
Est-ce que vous préparez pour les gens, par exemple, des plateaux ? Parce qu'il peut y avoir des gens qui n'y connaissent rien et qui ont envie d'avoir une variété de fromages.
Ouais, donc je prépare des plateaux donc sur commande. Oui, c'est mieux de réserver un jour avant, mais si vous venez et que vous le faites, on le fait en direct ensemble. Donc je prépare les plateaux avec les petites étiquettes, avec le nom des fromages, avec la région, avec les accords avec le vin s'il faut. Sur des rondins de bois, ça fait sympa pour aller chez des amis ou ça remplace le bouquet de fleurs. Ça se mange.
Sur un plateau de fromage bien constitué, moi j'ai toujours entendu dire, mais peut-être que je me trompe, il faut un nombre impair de fromages, et puis on doit manger du plus doux au plus fort. Est-ce que vraiment c'est vrai ? Est-ce que vous dites ça à vos clients ?
Alors moi en fait je mets effectivement l'ordre dans lequel il faut les manger, donc en fonction du plus doux au plus fort. Ensuite ils font comme ils veulent, s'ils veulent commencer par un autre, ils commencent par un autre, mais chiffre impair pas forcément, moi je mets n'importe.
On peut servir aussi le fromage avec certaines confitures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette mode ? Des fruits secs ou des choses comme ça ?
Moi, j'adore ça, donc je vais pas dire que c'est une mode. Mais par exemple, ouais, la confiture de cerise noire avec les pâtes brebis, ou c'est très bon. Oui, et puis, confiture de figues aussi avec les petits chèvres, c'est sympa. Moi, j'adore le pain aux noix avec pain aux noix, figues, tout ce qui est pain un peu avec des graines pour accompagner le fromage. Mais après, des fois, on n'a pas le choix, on prend une bonne baguette et puis c'est bien aussi.
Quelques conseils pour la fin de l'année ?
Ça va dépendre en fait du nombre de personnes qu'il va y avoir déjà. Et puis après, on peut faire des beaux plateaux, donc à peu près pour une fin de repas, parce que Noël c'est chargé, souvent on compte 70 grammes de fromage par personne. Moi j'en mets un peu plus, parce qu'il en faut toujours pour le lendemain, parce que Noël ça s'étale sur 2 jours ou 3, donc avec la famille. Et puis après, il y aura de très bons fromages pour Noël. Et puis je vais notamment affiner un Saint-Marcelin aux truffes et un Brie aux truffes aussi. Et puis je peux faire des paniers garnis aussi pour offrir avec pas mal de choses, avec des bières, des vins, du fromage et des terrines.
Alors, vous avez pas mal de terrines d'une maison qui s'appelle la Maison Papillon ?
C'est une maison qui se situe dans l'Aveyron, qui fait pas mal de terrines, et j'ai pris notamment parce qu'ils font des terrines au Roquefort, au fromage de brebis, terrines aux noix et au Saint-Marcelin, fromage de chèvre, donc c'est sympa. Alors en fait j'ai pas mal cherché un peu de partout, sur internet, dans des livres, avec mes connaissances des fromagers que je connaissais, s'ils avaient des producteurs sympas à me faire découvrir. Ils m'ont donc envoyé des échantillons, puisque c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant que je suis installé, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir pour me faire goûter leur fromage avec des échantillons. Et puis si ça me plaît, pourquoi pas travailler avec eux. Et puis si ça me plaît pas, je leur dis tout simplement, parce que ça arrive aussi.
J'ouvre les livres de cuisine. J'ai envie de faire cette recette.
soupe de tomates au cabrales. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est espagnol. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez avoir ce fromage si je veux vraiment faire ma petite soupe de tomates?
Je pourrais avoir ce fromage et je l'ai déjà en fait. Donc voilà.
Super.
Donc, pour celui-ci, c'est bon. Oui, vous pouvez passer commande pour des fromages particuliers que vous connaissez, peut-être pas moi, que je demanderai. Ça s'est passé, donc une dame m'a demandé du Murols, c'est un fromage auvergnat que je connaissais pas. Je me suis renseigné et j'en ai eu pour la 3 semaines après. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'en ai eu quand même.
Et de la tome d'Auvergne, vous en avez? C'est du fromage frais, du Cantal, on fait la ligo avec.
C'est plus de l'Aveyron, la tome fraîche, mais oui, j'en ai.
Vous en avez?
Oui. Oui.
Eh bien, bravo!
Eh ben, c'est merveilleux, oui!
On va faire notre marché, alors.
Quand vous étiez petit, vous aimiez le fromage ou non?
J'aimais le fromage, j'en mangeais pas énormément. Et c'est venu après, avec le vin, ça va bien. Donc.
Vos clients, quand ils pénètrent dans la boutique, ils doivent être très étonnés de voir un jeune homme comme vous. On doit souvent vous poser la question, non? En vous disant, vous êtes très jeune pour un patron.
On me demande souvent si on peut parler au patron, du coup voilà. Je vais le chercher.
Et
je reviens. Non, mais après, ils sont. Justement, je pense que c'est un petit plus parce qu'ils ont envie de m'aider un peu. Donc.
Oui, je pense que ça doit aussi les fidéliser parce que, comme vous avez l'air de connaître votre métier en plus de l'apprécier, d'aimer ce que vous faites, je pense que les clients, ça les attire aussi. Enfin, moi, je sais que si je rentre chez vous, je reviens. De par les fromages, mais aussi de par votre personnalité. Parce que 19 ans, c'est chapeau.
Alors en plus, vous faites beaucoup de choses, d'après ce que j'ai compris, parce que vous êtes un petit peu concerné par le rugby.
Oui, je joue dans la catégorie espoir, donc au CSBJ. Moi, j'ai entraînement tous les soirs, donc dès que je ferme la boutique à 19h, je pars à l'entraînement. Des fois, mon père vient me remplacer pour que je parte plus tôt à l'entraînement, pour que je puisse jouer avant, mais bon. C'est assez difficile parce que là, j'enchaîne les blessures à cause de la fatigue, le stress. Donc. Normalement, on voit si un magasin va marcher au bout de 3 ans. Moi, pour l'instant, ça se passe très bien et je peux mieux faire et je pense que je vais mieux faire.
Et vos parents, ils doivent être fiers de vous, je pense, parce que 19 ans, se lancer comme ça et être autant investi.
Ils m'aident beaucoup, donc oui, ils sont fiers de moi. Ils me le montrent pas trop parce que ils sont un peu réservés, mais non, ils sont assez fiers de moi.
Ouais. Ils ont bien aidé pour le magasin, non? Vous n'avez pas fait ça tout seul. C'est un très très joli magasin hein, qui a été refait complètement, hein, dans lequel on se sent très bien. Mais il y a du boulot derrière.
En fait, on a eu le local fin décembre et on a travaillé jusqu'à juin. Donc pour tous les murs, on a tout refait en fait, de A à Z. On a refait les murs, le plafond était déjà refait parce qu'il y avait eu des problèmes avec l'ancien. Mais on a tout refait, ouais, on a dû tout installer avec la chambre froide, la banque réfrigérée.
Est-ce que le côté sportif et puis l'esprit rugby vous a aidé dans la volonté de lancer ce défi, de réussir dans cette volonté qu'on sent en vous?
C'est vrai que je suis très très compétition, donc j'aime bien les défis. Au rugby, ça m'a aidé beaucoup parce qu'ils m'ont aidé déjà à porter la banque. j'aurais pas réussi tout seul. Après, c'est des bons clients aussi parce qu'ils viennent me voir souvent, puis même ils jouent bien le jeu. Même les joueurs pros jouent bien le jeu. Donc.
Oui, alors, votre adresse, et elle est incontournable pour la fin de l'année, et d'ailleurs pour toute l'année à venir aussi. Donc dites-nous tout, vos horaires, votre adresse, etc.
Bon, en fait, je pense que je vais ouvrir déjà tous les jours, donc même le lundi de 8h à 12h30, peut-être que je ne fermerai pas entre midi et 2, je verrai en fonction du monde qu'il y a, et puis des autres commerçants de leurs heures aussi qu'ils vont faire. Et puis 8h, 12h30, et 15h30, 19h, 19h30, je pense pour les fêtes. Donc c'est 30 boulevard de Champaret, donc vers le stade de Pierre Rajon. Et puis si vous voulez une raclette, même avant la fin de l'année, ça peut se faire aussi.
J'ai vu dans votre vitrine que vous faites l'allocation de matériel. Et j'ai vu un petit appareil à fondue électrique apparemment.
Oui, je prête les appareils pour les fondues, raclettes. J'ai pas mal de beaux appareils transparents, notamment pour les raclettes qui sont sympas. Donc les appareils, c'est important de les avoir pour les prêter pour... Après, il faut faire confiance aux clients pour qu'ils le ramènent. Mais... Et puis pour les raclettes, c'est juste pour aider. Si jamais ils sont plusieurs et qu'ils n'ont qu'un appareil, je peux prêter le deuxième. Voilà.
Il reste à vous remercier, Alexis, de nous avoir reçus. Surtout qu'aujourd'hui, c'est assez chargé puisque c'est le jour où vous déménagez. Donc, merci encore. Et à bientôt.
Et cerise sur le gâteau, ou plutôt sur le plateau de fromage. Notre talentueuse poète et collaboratrice, Bernadette, va enchanter tous nos sens avec un texte de sa composition.
Il y a ceux qui ne vous disent rien ou ceux que vous n'aimez pas du tout. Après tout, il y a bien des gens qui se pincent le nez ou changent de pièce quand on les met sur la table, ce sont les fromages. Toi, tu n'as peut-être pas de la tome crochue avec eux, Alors, quant à le vieux, ce n'est pas pareil que quant à le jeune. Ils n'ont pas tout à fait la même saveur, car peut-être tu y goudas un peu un jour et tu les as trouvés bons. Il n'y a pas de Munster. Que l'on soit beau, fort ou tout kirikiki, ou bien qu'un simple jour on ait compté pour quelqu'un, chacun a en abondance un caractère particulier et c'est ce qui fait de lui tout son charme. Et même si l'on ne sent pas bon du tout, on peut cacher un cœur tendre et onctueux. Il faut tenter la rencontre. Alors je t'en brie, mais pas une peur bleue de la différence. Loin de léser, elle enrichit. Tu croiseras peut-être une belle des champs dans la brousse, un chamois d'or ou une créature fantastique comme le chat ours.
Alors nous arrivons à notre chronique « La voix du mois ». Nous allons entendre Jean-Pierre Coff aujourd'hui. Il s'imposait, comme il a rencontré Robert Morel au cours de sa vie professionnelle. Donc voilà, nous allons écouter Jean-Pierre Coff.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec cette idée tellement saugrenue de faire des porcs dont la bardière, c'est-à-dire la partie grasse qui se trouve sur le dos, sur l'échine, ne fait pas plus de 3,5 mm, les bouchers ou les charcutiers qui ont besoin de barde pour entourer leur pâté, pour entourer leur roast beef, s'ils veulent, bon, je ne suis pas parti dans ça, mais ils achètent de la barde en Espagne à 5,96 le kilo, alors que le cochon veut entre 1,50 € et 2 euros. Vous ne trouvez pas ça complètement cinglé, être obligé d'acheter du gras de porc alors qu'on élève des porcs en France? Réfléchissons deux minutes.
Voilà, toutes les bonnes choses ont eu fin. Moi, ces deux interviews, ça m'a complètement troublée. J'étais subjuguée par la présence déjà de ces personnes, mais aussi par l'échange. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir écoutés.
Eh bien, au revoir à tous. Bonne fin d'année à tous. Joyeux Noël, bon jour de l'an. Et à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Bonne fête.
À bientôt.